Plus vous en mangez, plus vous maigrissez. Deuxième partie. Comme je vous l'expliquais lors de mon dernier article, je me sens le devoir d'éclaircir certains raccourcis, non-sens et autres mystifications concernant l'alimentation. La nutrition et tout son arsenal de régimes minceur, santé, bien-être fait vendre. Pour la plupart, leur seule force est qu'ils captivent votre attention et vous font dépenser votre argent. Ils vous font croire à des mythes et légendes et vous redirigent vers des produits dérivés, méthodes, compléments alimentaires miraculeux, machines à explosion d'adipocytes, électrolipolyse et autres techniques passives, magiques, qui vous feront devenir aussi belles et beaux que le mec ou la nana du catalogue. Bien sûr, sans rien faire, ou si peu. C'est normal, vous allez obtenir autant, peut-être même plus, que celui ou celle qui contrôle son alimentation et qui fait du sport quotidiennement. C'est parfaitement logique. Il ne faut surtout rien faire. Ou vraiment peu. On parle quelquefois de 15 ou 20 minutes de cette technologie innovante qui équivaudrait à des heures d'entraînement contre résistance associées à du cardio training à haute intensité, sous le couvert que tel ou tel aliment aurait des propriétés énergivores, brûle graisse, vous pourrez donc même manger ce que vous voulez, la quantité que vous voulez en faisant fi des valeurs énergétiques. Vous deviendrez un athlète esthétique et performant ou une merveilleuse créature sensuelle aux formes galbées et toniques. La communication est tellement bien dirigée que vous finissez par y croire. Finalement, vous êtes bien plus naïf que les enfants qui croient au Père Noël. D'ailleurs, le Père Noël a plus de crédibilité à mes yeux que toutes ces foutaises. Tous les extraits fantaisistes sont encadrés par des guillemets dans le texte et sont en italique et de couleur bleue, comme lors de mon précédent article d'ailleurs. Donc, dans ce podcast, eh bien, je le signalerai donc à chaque fois que je lirai un extrait sorti de ces articles fantaisistes. Donc, je le répète également, j'ai souhaité aussi respecter scrupuleusement les textes. Hein. Donc, s'il y a des erreurs dans ces textes, eh bien, ils sont liés à l'auteur. Mais pas à moi, bien sûr. Donc, tous ces textes sont extraits de l'article qui m'a servi, donc du même article fantaisiste qui m'a servi lors de mon dernier article. Cet article, c'est le top 21 des aliments brûle-graisse efficaces, le régime au naturel. Donc, sorti du texte, la consommation de pamplemousse combinée à des protéines boosterait la combustion énergétique dans l'organisme. Alors, voilà encore une allégation non fondée. Néanmoins, conjuguée au conditionnel. Donc l'auteur n'est quand même pas très sûr de ce qu'il dit. Donc par quel miracle la combinaison du pamplemousse et des protéines aurait-elle une action lipotrope sur l'organisme? Donc je vous rappelle que lipotrope se dit d'une substance qui se fixe sur les graisses ou facilite leur transformation dans l'organisme. Là encore, on ne parle pas de quantité, de proportion ou du principe biochimique qui provoquerait cette réaction. On affirme, simplement que le mélange des deux est explosif, sans aucun article scientifique à l'appui. Encore un autre passage extrait de cet article. L'acidité du citron booste la digestion et diminue le taux de sucre dans le sang. Le citron est réputé depuis tout temps pour être un bon allié minceur. Donc là encore, une booste allégation infondée. Donc, nous connaissons bien sûr les vertus alcalinisantes du citron et donc l'influence qu'il peut avoir sur le pH du corps, mais en aucun cas il n'aurait la propriété de diminuer le taux de sucre dans le sang. Le citron n'a pas d'action thérapeutique en ce sens. Il est simplement peu sucré et à ce titre, il a une faible action sur la glycémie. Autre passage extrait de cet article. Melon et pastèque, là, diurétique est votre ami. L'effet diurétique de ces deux fruits permet au transit de bien fonctionner. Alors, il n'est pas connu à ce jour d'effet diurétique concernant le melon et la pastèque. On ne connaît rien à ce propos. Il n'y a pas de bibliographie scientifique sur le sujet, donc ça n'existe pas. Voilà. De plus, les diurétiques n'ont pas une action directe sur le transit. Ouais, effectivement, l'eau peut être laxative, hein, dans certains cas de constipation, mais il faut en consommer une quantité assez importante, 1 ou 2 litres, voire plus, pour que l'effet se fasse sentir. Par conséquent, consommer 1 ou 2 litres, au travers de la pastèque ou du melon, nécessitera alors de consommer dans le même temps les nutriments énergétiques qu'ils contiennent, c'est-à-dire principalement les glucides et leurs calories. Soit pour 2 litres environ, qui correspond à 2,3 kilos de pastèque, eh bien on avoisinerait pas loin de 700 calories issues des glucides, donc du sucre. À nouveau, passage extrait de l'article. Leur haute teneur en eau permet aussi de diminuer la quantité de graisse stockée par l'organisme. Donc là, on parle encore du melon et de la pastèque, hein. Donc l'auteur dit, leur haute teneur en eau permet aussi de diminuer la quantité de graisse stockée par l'organisme. Voilà, c'est encore un miracle, hein, sans aucun fondement. Donc finalement, il suffirait donc de boire beaucoup d'eau pour perdre sa graisse stockée. Hein, voilà, c'est ce qui est dit là dans le texte. Donc ce sont des foutaises, bien sûr. À nouveau, extrait de cet article. Ananas, 2 points, plus de vitamines, moins de calories. Ce fruit, plein de vitamines et pauvre en calories, favorisera le fonctionnement du transit grâce à ses propriétés diurétiques. C'est de sa tige que l'ananas tient sa réputation d'aliment brûleur de graisse. Celle-ci contient de la bromélaïne, une enzyme qui aide à l'élimination des graisses. Ok, bon, là je le répète encore une fois de plus, un diurétique facilite l'élimination de l'eau. Le transit, quant à lui, est lié aux intestins et à l'élimination du bol fécal. Donc, prendre un diurétique naturel ou chimique ne réglera pas vos problèmes de transit. De plus, la réputation de la bromélaïne, dans le texte issu de cet article, est totalement usurpée. Celle-ci aide à la digestion des protéines et non pas des graisses. Rien aujourd'hui ne permettrait de lui attribuer l'allégation brûle-graisse. Il semblerait que la bromélaïne fragiliserait les parois des adipocytes, donc des cellules graisseuses. Mais les études sur le sujet manquent réellement de pertinence. À nouveau, extrait de ce texte fantaisiste, la papaye. Alors l'auteur dit, le pouvoir d'éliminer la graisse, la papaye, hein, le pouvoir d'éliminer la graisse, cet allié minceur est composé d'enzymes digestives appelées papaïne et pepsine, qui booste, une fois de plus, la digestion d'éléments riches comme les graisses, virgule, les féculents, virgule, les glucides. Alors, premièrement, la papaïne est une protéase, à cystéine, qui catalyse la scission des liaisons peptidiques. La pepsine dégrade les protéines du bol alimentaire en hydrolysant les liaisons peptidiques. Donc cette dégradation constitue l'initiation de la digestion des protéines au niveau de l'estomac. Okay? Donc, vous l'avez compris, ces deux enzymes participent à la digestion des protéines et non pas des graisses ni des glucides. D'autre part, l'auteur différencie les féculents des glucides, alors que les féculents sont des aliments glucidiques. Bon, on n'est plus à ça près, hein. À nouveau, extrait issu de cet article, consommer de la papaye avant le repas aidera à digérer et évitera de stocker des graisses. Bon, ok, encore une allégation non fondée, donc une de plus. Toujours extrait de ce même article, la banane, deux points, le médicament naturel. Elle aide à la perte de graisse et à améliorer la santé. Grignoter ce fruit vous donnera un grand coup de boost tout en faisant passer la sensation de faim. Ok, donc, je vous rappelle une fois de plus que ce passage est bien issu de cet article, hein, cet article populaire, hein, qui est de plus bien référencé. Et évidemment, lorsque votre article est bien référencé, eh bien, il est lu par des milliers de personnes. C'est important de souligner, hein, ce n'est pas un article qui passe inaperçu, hein, il est populaire. Voilà. Donc de quelle façon la banane, hein, qui fait partie des fruits les plus caloriques, hein, c'est quand même environ 80 calories pour 100 grammes, aurait la faculté d'aider à la perte de graisse? Alors là, en puisant dans mes connaissances, hein, sur le sujet et en cherchant, hein, de plus dans la littérature scientifique, j'ai cherché s'il y avait une publication quelconque, hein, sur cette capacité brûle-graisse que l'auteur brandit. J'ai rien trouvé, rien du tout. Donc l'auteur dit également qu'elle serait une sorte de coupe-faim. Ah, là, je ne sais pas par quel miracle. Donc lui seul le sait, hein, probablement. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu as bouffé une tartiflette, c'est certain que tu n'as plus faim. Hein. C'est un peu le même principe finalement. Hein. Mangez des bananes et vous verrez, vous n'aurez plus faim. Hein. Est-ce que de manger, en fait, coupe la faim? J'ai envie de dire que c'est une lapalissade, hein. Évidemment. Ok. À nouveau, extrait de cet article. Cannelle, deux points, ennemi juré du glucose. Cette épice évite que le taux de glucose augmente brusquement dans le sang lorsque vous consommez des sucreries. Le glucose, en effet, élève l'insuline, hormone qui transforme les aliments en graisse. Elle stimule ainsi la digestion. Dans un régime, la cannelle est donc idéale pour tout dessert en substitut du sucre, pardon. Vous pouvez également la combiner à du miel, dans du yaourt par exemple, pour augmenter ses effets brûle-graisse. Voilà ce que dit l'auteur dans cet article. Donc effectivement, hein, la cannelle aurait la propriété de faire baisser le taux de glucose dans le sang, mais pas uniquement si vous consommez des sucreries. Vous comprenez? Hein, l'auteur la associe, la consommation en fait, à des sucreries. Okay? Donc si la cannelle, est, apparemment elle l'aurait, cette faculté en fait à faire baisser le taux de sucre dans le sang, eh bien elle le fait en fait, hein, c'est sa propriété ou pas, hein, mais qu'elle soit associée à des sucreries, ça change pas évidemment cet effet-là, hein. D'ailleurs, je vous ai mis en lien donc un article qui indique que les composés donc de la cannelle présentent des propriétés proches de l'insuline et qui permettent ainsi d'équilibrer la glycémie. Donc là, cet article s'appelle Alimentation du diabétique. Voilà, il est en rouge et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Donc pour revenir à l'article fantaisiste, l'auteur dit également, hein, de façon erronée, que l'insuline transforme les aliments en graisse. Alors, c'est pas du tout le principe, hein. L'insuline est chargée de ramener la glycémie sanguine à un niveau équilibré en fait, hein, en stockant le sucre excédentaire et non pas les aliments. Hein, parce que là, l'auteur parle d'aliments. Hein, donc le sucre excédentaire de trois façons. Donc, premièrement, à l'intérieur des tissus musculaires sous forme de glycogène, donc dans les cellules, dans le foie, hein, deuxièmement dans le foie, donc sous forme de glycogène également, et troisièmement dans les tissus adipeux, donc sous forme de triglycérides. Hein. Donc là, effectivement, les triglycérides sont des graisses. Donc, lorsque la consommation de sucre est trop importante, donc les deux premières formes de stockage, tissu musculaire et foie, sont très rapidement saturées. Donc, par la suite, donc, tout l'excédent de sucre donc, sera donc stocké dans le tissu adipeux, donc grâce à cette transformation en triglycérides. Cette transformation, donc évidemment, elle sera métabolisée au niveau du foie. Donc l'insuline ne stimule pas la digestion. Hein. C'est une hormone polypeptidique, en fait, fabriquée par les cellules bêta des îlots de Langerhans, en fait, ou Langerhans, dans le pancréas. Donc elle intervient principalement dans le cycle du glucose et elle a pour rôle de maintenir le niveau de sucre présent dans le sang, donc la glycémie, à un niveau stable, en transportant le sucre excédentaire donc vers les muscles, le foie ou le tissu adipeux, hein, comme je l'expliquais je viens d'expliquer à l'instant. Donc ainsi, lorsque la glycémie augmente un peu trop, donc suite à la consommation de produits riches en sucre, donc c'est l'insuline qui est chargée de transporter ce sucre excédentaire vers les cellules, des muscles, du foie, donc mais aussi du tissu adipeux, hein, comme je le répète à nouveau. Donc, à la suite, donc l'auteur dit de cet article fantaisiste, la cannelle est un substitut du sucre. Donc là, encore une fois, ça ne veut rien dire. Hein. La cannelle n'est pas un substitut du sucre. Déjà, c'est une épice, et donc ce n'est pas un édulcorant hein, qui pourrait être un substitut du sucre. Un édulcorant de synthèse, hein, comme l'acésulfame K, comme l'aspartame, comme le cyclamate, comme le sucralose, etc. etc. Ce n'est pas du sirop d'agave, ce n'est pas du sirop d'érable, ce n'est pas du sucre de coco, de bouleau, enfin je ne sais quoi, qu'on peut considérer comme des substituts du sucre. Okay. L'auteur conclut en disant que combiner la cannelle à du miel dans du yaourt, cela augmenterait les effets brûle-graisse de la cannelle. Donc là aussi, ce n'est que pure spéculation. Hein. Et puis cela pourrait être évidemment interprété de façon empirique par des esprits non avisés. Hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient penser que plus ils mélangent de la cannelle à du miel et à des yaourts, et plus ils brûlent leur graisse, vous comprenez? Donc, ce qui n'est évidemment pas le cas. Hein. Donc, ça reviendrait à dire, plus je mange, plus j'ingère de calories et plus je perds de la graisse. Donc, on marche évidemment sur la tête, quoi. Ok, écoutez, je m'en tiendrai là pour cet article. J'aurai l'occasion évidemment d'en écrire d'autres sur ce sujet parce que les articles de ce style sont vraiment pléthores, quoi. Et c'est les mieux référencés. Hein, donc il y a encore d'innombrables faussetés comme ça et de merveilleuses perles que j'ai relevées hein, sur le web et ailleurs. Donc je les partagerai avec vous lors de prochains articles. Et j'espère en fait que vous pourrez y voir un petit peu plus clair dans tout ce marasme nutritionnel. Hein. Je tiens à souligner que les auteurs donc non spécialisés de ces articles, hein, qui sont pour la plupart des copywriters, en fait c'est des rédacteurs web, et finalement ils colportent des ragots, hein, en fait, des allégations non fondées, et ils les relaient encore et encore, d'article en article, de copywriters en copywriters. C'est comme ça. Donc moi je pense que ces sujets sont quand même très importants et ils méritent plus de recherche et de sérieux. Hein, c'est pas parce que l'article est placé en tête du référencement sur Google qu'il est intelligent et bien fondé. Ce que je vous explique vous semble logique. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir.